Depuis plusieurs dimanches, le pasteur Cabot nous donne à réfléchir sur le temps, notre façon de gérer notre temps, l'appel à racheter le temps, mais aussi le temps selon Dieu, qui n'est pas le même que le temps que nous nous considérons. Et ça doit nous rendre sensibles également au temps particulier dans lequel nous nous vivons. Un temps, en tout cas dans notre pays, de déchristianisation. Un temps de décadence de la foi et des valeurs en général. Un temps de sociologie et d'humanisme plutôt que de confiance et d'espérance. L'apôtre Paul, dans le texte que nous allons lire dans cette épître, arrive au terme de sa vie et de son ministère et il considère lui aussi le temps dans lequel il se trouve, mais aussi le temps dans lequel se trouve l'Église de Dieu qu'il a contribué à fonder. Et cette épître nous dit finalement comment nous comporter dans un temps spirituel de déclin, parce que c'est ce qu'observait Paul aussi à son époque. Et je crois que c'est tout à fait actuel pour nous qui entendons ce passage ce matin. Avec ces questions, l'Église est-elle une grande famille ou est-elle la famille de Dieu? Sommes-nous une maison ou sommes-nous la maison de Dieu? Eh bien, mes amis, ce n'est pas la même chose du tout, hein. Où en sommes-nous de l'appel que Dieu nous a un jour adressé? Qu'avons-nous fait de ce qui nous a été transmis? Alors, je vous invite à la lecture de ce texte. C'est la deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 1, et je lirai les 10 premiers versets. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie qui est en Christ Jésus, à Timothée, mon enfant bien-aimé. Grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus, notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que je sers à la suite de mes ancêtres avec une conscience pure, et je ne cesse de faire mention de toi dans mes prières, nuit et jour, car je me souviens de tes larmes et j'ai le vif désir de te revoir, afin d'être rempli de joie. Je garde aussi le souvenir de la foi sans hypocrisie qui est en toi, et qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, comme j'en suis persuadée, elle habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, prisonnier, pour lui, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. C'est lui qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Christ Jésus avant les temps éternels. Cette grâce a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. Qui a réduit à l'impuissance la mort et mis en lumière la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. Pardon. Voilà, jusqu'ici la parole de Dieu. L'apôtre Paul, dans ce passage, nous donne trois pistes et une clé pour nous aider à nous positionner en tant que chrétiens dans un temps, vous l'avez compris, spirituellement compliqué. Et je pensais, en méditant ça, à ce verset de Luc où Jésus dit « Le Fils de Dieu, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Voilà le genre de temps compliqué. Ces trois pistes qui nous sont données dans ce texte sont une foi sincère ou une foi sans hypocrisie dans cette version. Ranimer la flamme, deuxième point, et troisième point, ne pas avoir honte. Et la clé, c'est de non seulement avoir saisi le salut, mais aussi d'avoir répondu à l'appel. Et nous verrons que ça n'est pas si évident pour beaucoup de chrétiens. Alors le premier point, une foi sincère ou sans hypocrisie, qui pose d'emblée cette question, d'après la façon dont c'est écrit, Peut-on hériter la foi de ses parents? Alors on a quand même envie de répondre tout de suite non, hein? Mais en creusant un peu, on a envie de répondre oui et non. Oui, dans le sens où nos parents peuvent et doivent même nous transmettre leur foi en nous élevant dans la crainte et le respect de Dieu, et donc en le vivant eux-mêmes, parce qu'on apprend par l'exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette image d'une dame en train de lire avec son petit garçon sur les genoux avec un livre, et les gens autour lui demandent « Comment fais-tu pour que ton enfant lise au lieu d'être sur un écran ?» Et elle dit ben, « Il n'écoute pas ce que je dis, mais il fait ce que je fais. » Voilà, on apprend par l'exemple. Alors dans ce sens-là, oui, quelque part, et c'est ce que semble nous dire ce texte quand même, la foi de la mère et de la grand-mère de Timothée ont été déterminantes pour sa foi à lui. Mais on doit répondre non aussi, dans un autre sens, puisque seul l'Esprit de Dieu peut transformer notre cœur et faire de nous des disciples de Christ. Ceci étant dit, il faut remarquer qu'avoir grandi dans une famille chrétienne, c'est quand même un privilège. Mais on ne devrait pas s'arrêter au privilège. Est-ce qu'on a traduit cet avantage en une relation sincère et personnelle avec Dieu? C'est ça la question qui suit. Combien de temps passez-vous chaque jour à lire la Bible et à prier, par exemple? Est-ce que vous avez appris à connaître Dieu par vous-même? Marchez-vous aujourd'hui dans les pas de Jésus? Aimez-vous le Seigneur plus que toute autre personne, plus que toute autre chose? Parfois, quand on a grandi dans une famille chrétienne, on se sent désavantagé, bizarrement, par rapport à ceux qui ont vécu des conversions extraordinaires et qui ont des choses formidables à raconter, parce que on n'a généralement pas connu ce genre d'expérience. Et quand on est en soirée de témoignage, on se dit « pourvu que ce ne soit pas à moi qu'on demande, j'ai rien à dire ». Et pourtant, l'héritage de la foi de nos parents et grands-parents peut être une bénédiction si ceux-ci nous ont donné l'exemple d'une foi sincère et d'une relation vivante avec Jésus. Ce qui me fait dire qu'on ne devrait pas chercher d'abord à bien enseigner nos enfants ou à trouver quelqu'un qui les enseignera bien, même si c'est quand même vraiment important. Mais peut-être que d'abord, on devrait s'assurer que notre foi est sincère et qu'on la vit devant nos enfants, comme un exemple à imiter. Et si on se pose de l'autre côté, celle des enfants, alors vous allez dire peut-être ça nous convient, ça nous correspond pas, ils sont partis, mais en fait, chez vous là, il y a des enfants de chrétiens, hein, qui sont grands évidemment, qui sont devenus des adultes depuis longtemps. Et pourtant, êtes-vous tous passés par la case engagement personnel? Je ne parle pas ici d'engagement associatif ou dans la vie de l'Église. Je parle d'engagement de foi devant le Seigneur. Je parle de renoncement à soi-même, de porter sa croix, de suivre Jésus. C'est des questions qu'on pose aux enfants quand ils terminent leur catéchisme. Hein, bon, maintenant, tu vas faire quoi? Mais on oublie de les poser aux adultes, à qui peut-être personne ne les a jamais posées. Parfois, on a vécu ce temps d'engagement, et puis on s'est endormi, assoupi. On est devenu tiède. Parfois non, hein, mais parfois oui. Et ça nous amène au deuxième point qui est ranimer la flamme. Pour ranimer, ça veut dire que c'est quand même un peu faiblard, hein. Et effectivement, alors dans ce texte, il est question du don, hein, reçu par Timothée. Et un don peut s'éteindre par manque d'usage. Ça implique d'être conscient de notre don déjà, conscient aussi de notre responsabilité à l'utiliser, conscient que nous avons regardé ailleurs peut-être et choisi d'autres priorités que le Seigneur pendant un temps. Alors Dieu nous appelle à ranimer la flamme. Quelles que soient les circonstances, notre responsabilité à l'égard de ce que Dieu nous a confié reste pleine et entière. Et nous devons nous acquitter de notre tâche en regardant à lui, sans tenir compte de l'état de ruine de l'Église et du témoignage. J'étais frappée particulièrement par la façon dont se présente Paul dans ce texte. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu. Sous-entendu, c'est pas ma faute, quoi. Hein. J'y suis pour rien. Je suis là parce que Dieu l'a voulu. Et je regarde toujours à Dieu par rapport à ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de responsabilité, mais ça remet chacun à sa place. Regardez à ce que nous avons reçu. Et ce que nous avons reçu dans ce texte nous est décrit comme un esprit de force, d'amour et de puissance. Et de sagesse, pardon. Il y a une faute de frappe sur ma prédication. Si vous la relisez, le troisième mot, c'est sagesse. Pour moi qui suis d'un naturel timide, quand même, à la base, ce verset m'a toujours interpellée. Il me semble qu'on peut être timide ou réservé dans la vie. En revanche, on ne devrait pas l'être en ce qui concerne les choses de Dieu. Et nous n'avons pas à lutter pour être différents de ce que nous sommes. Nous n'avons pas à lutter contre nous-mêmes, puisque c'est Dieu qui donne cet esprit de force, d'amour et de sagesse. Sans développer trop longuement quand même, si on regarde ces trois termes, la force ou la puissance, c'est ce qui nous permet de tenir bon. C'est ce qui nous permet de tenir ferme dans les positions acquises. C'est ce qui va nous permettre aussi de nager à contre-courant. Et nous en avons bien besoin. Les jeunes, les adolescents et même les petits-enfants dans la cour de l'école en ont besoin. Cet esprit de force. Nul besoin d'être fort nous-mêmes, mais plutôt de compter sur la puissance de Dieu qui s'accomplit dans la faiblesse, dans notre faiblesse. Le deuxième terme, c'est l'amour. L'amour, c'est ce qui attire les âmes. C'est ce qui ouvre le ciel, quelque part. L'amour nous révèle le cœur du Père et du Fils. Et ça aussi, ça nous remet dans l'idée que ça n'est pas parce que nous parlons bien que nos contemporains vont connaître Christ. Même si ça peut aider. Mais c'est d'abord parce que nous aimons Dieu et que nous nous aimons les uns les autres. C'est ce que dit Jean, hein, « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » La sagesse, enfin, donne la direction. Elle permet, d'après le livre des Proverbes, la sécurité, la tranquillité et la protection. Et rien qu'en disant ça, on se dit « Oh, on veut la sagesse !» Sécurité, tranquillité, protection. La sagesse nous conduit à rechercher Dieu et à nous attendre à lui. Elle nous aide à prendre des décisions suivant ce qui plaît à l'Éternel. Elle nous garde de la chute et de l'égarement. Alors quand l'apôtre affirme que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, il parle de cet esprit de force associé à l'amour et à la sagesse. Une force évidemment qui n'écrase pas l'autre, mais une force capable d'aimer, de tenir bon dans les moments difficiles, je l'ai dit, et de répondre à la haine et à la violence par l'amour. Cette force d'aimer appelle aussi cette sagesse, ce discernement pour rester debout dans les difficultés. Et c'est réellement un esprit qui nous est particulièrement nécessaire dans le monde dans lequel on vit. Un monde où beaucoup de nos contemporains ont peur de tout ou presque. Alors des peurs parfois légitimes, hein, pour leur travail, leur dignité. Certains craignent même pour leur survie, hein. Françoise nous a partagé notamment l'annonce de la CAT. Et nous vivons un temps de mutation de la société, des changements importants qui nous troublent et qui nous déstabilisent sur bien des points. Et ces changements perturbent aussi la vie de l'Église, c'est évident. Nous voyons les choses parfois s'effriter. Nous voyons de nombreuses communautés chrétiennes perdre leur dynamisme ou leur enthousiasme. Nous constatons parfois la disparition de certaines activités d'Église sans percevoir celles qui les remplaceront. Et nous avons tendance à ne voir que du négatif et à sortir notre fameux « c'était mieux avant ». Face à cela, l'esprit de force, d'amour et de sagesse nous est particulièrement nécessaire. Nécessaire pour garder l'espérance de la bonne nouvelle de l'Évangile, nécessaire pour affronter parfois la solitude de la foi, quand on est entouré de gens qui sont contre, nécessaire pour oser témoigner de notre espérance, voire pour faire face à des persécutions, parce que ça arrive. Oser témoigner, c'est le troisième point, et c'est lié à la honte dans ce texte, hein, plutôt au fait de ne pas avoir honte. Paul exhorte Timothée à témoigner de l'espérance qui est en lui et à ne pas avoir honte de l'Évangile. C'est assez fort comme phrase, hein ? Honte de l'Évangile. Notre témoignage, effectivement, n'est pas toujours porteur et efficace. Mais il ne laisse pas non plus indifférent. Peut-être c'est bien qu'on se le dise de temps en temps. Et c'est moins ce que nous disons que ce que nous sommes qui compte. Parce que nous témoignons avant tout par notre vie avec ses forces, ses faiblesses. Nous témoignons par des gestes simples, parfois par des réactions à des choses. Par notre rayonnement, par notre paix parfois face à des gens qui ont peur de beaucoup de choses. J'ai trouvé cette citation intéressante, c'est Gandhi qui disait « Un arbre qui tombe, ça fait un grand fracas, mais toute une forêt en train de germer, ça ne s'entend pas. » Alors à nous de rendre ce silence audible. Et la source de cette promesse d'un futur qui germe maintenant, c'est cette grâce qui nous est donnée. L'apôtre Paul nous dit que cette grâce nous sauve, que nous sommes appelés par Dieu et qu'il a un projet pour chacun d'entre nous. Cette grâce va nous permettre de chasser l'esprit de timidité et de peur, puisque même la mort n'est plus un sujet de crainte normalement. Le Christ, notre Sauveur, a réduit la mort à néant et il a fait briller la vie et l'immortalité par l'Évangile, nous dit le texte. C'est une réalité fondamentale de notre foi. La mort n'est finalement qu'une réalité avant-dernière. La dernière réalité, c'est la vie. Celle qui commence ici-bas et qui s'épanouit dans l'éternité. Et Paul n'avait pas honte. Voilà ce qui est frappant finalement. Pesant toutes ses souffrances en tant qu'apôtre et regardant en arrière à sa carrière, entre guillemets, de service pour Christ, il ne considérait pas que ses paroles et ses œuvres avaient été dépensées en vain. Même quand il avait peut-être fondé une église qui marchait bien, et puis tout d'un coup, il restait trois personnes. Il n'avait pas honte. Pourtant, l'échec est apparent. Et pourquoi n'avait-il pas honte ? Eh bien parce qu'il suivait et servait celui qu'il connaissait bien et dont il avait pleinement fait l'expérience. Et l'échec apparent ne devrait pas nous faire honte à nous non plus parce que le Seigneur a déjà vaincu. Il est le Tout-Puissant. Nous, nous sommes imparfaits, certes, mais nous sommes son instrument. Il a voulu avoir besoin de nous. Et il est vrai que regarder l'état de l'Église ou parfois notre propre cheminement personnel, ça peut être une source de découragement quand même. Or, c'est justement dans ces cas-là qu'il faut regarder à Dieu. Regardez sa victoire, sa souveraineté. Regardez le fait que tout est dans sa main, qu'il sait parfaitement ce qu'il fait et qu'il mène toutes choses à bonne fin, selon son dessein, son plan et au temps qu'il a décidé de le faire. Savoir en qui nous avons cru. Et pour faire ça, évidemment, il faut s'entraîner à connaître Dieu. Ça devrait être la première caractéristique des enfants de Dieu. Savoir, connaître qui nous avons cru. Mais connaître une personne réellement dans la vie quotidienne, ça signifie beaucoup, vous le savez, hein, dans vos relations, que ce soit familiale ou amicale. Ça implique de s'intéresser à l'autre. Ça implique de passer du temps avec la personne. Ça implique d'être pleinement dans cette relation, de la vivre un peu comme une quête finalement, au bout de laquelle il y a un trésor, hein, la connaissance de l'autre. Je crois que nous avons tous besoin de croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que savoir en qui nous croyons, c'est une clé de solidité, de sécurité et de stabilité de la vie chrétienne. Alors avons-nous honte de la bonne nouvelle de Dieu pour notre monde, de l'Évangile, puissance de salut pour quiconque croit ? Nous laissons nous renouveler par Dieu pour discerner sa volonté, ce qui est bon, ce qui lui plaît. Où éteignons-nous l'esprit que Dieu a mis en nous, comme le dit Paul dans la première épître aux Thessaloniciens. L'apôtre Pierre nous exhorte aussi à avoir soif de Dieu, à être, dit-il, toujours prêt à rendre compte de l'espérance qui est en nous. Mes amis, nous ne vivrons rien ou pas grand-chose de ce qui a été dit précédemment si nous n'avons pas la clé. Sans cette clé, nous passons à côté, je crois, de la plupart des bénédictions qui sont promises par Dieu à ceux qui lui appartiennent. Et cette clé, c'est de comprendre à la fois, comprendre et vivre, à la fois le salut, mais aussi l'appel, à cause de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Et il ressort assez clairement de ces versets que les deux grands sujets de l'Évangile sont le salut et l'appel. D'une part, l'Évangile proclame le chemin du salut, et d'autre part, il nous présente le dessein de Dieu en vue duquel nous sommes sauvés. Et il importe de le dire parce que nous sommes souvent enclins à limiter l'Évangile à la question du salut, parce que c'est finalement ce qui nous préoccupe d'abord quand même. Notre salut, c'est une question importante évidemment, hein ? Mais si nous restreignons l'Évangile à ça, nous manquons la bénédiction plus profonde qui est liée au dessein éternel de Dieu et nous manquons l'entrée dans cet appel céleste. Il est clair que le premier grand but de l'Évangile, c'est notre salut et Dieu voudrait que le croyant n'ait aucune incertitude quant à ce salut. Déjà là, il y a du travail. Et dans ce passage, nous lisons bien, il nous a sauvés, c'est fait, c'est plus à faire. L'effet béni de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ est de placer le croyant au-delà du jugement qu'il mérite à cause de ses péchés et donc de le délivrer du train de ce monde. C'est bien là la première partie de l'Évangile. Et la majeure partie du peuple de Dieu voudrait s'en satisfaire. L'Évangile proclame néanmoins de bien plus grandes bénédictions, car il nous parle de l'appel de Dieu. Non seulement Dieu nous a sauvés, mais nous lisons qu'il nous a appelés d'un saint appel. Le salut nous libère du péché et du monde sur lequel le jugement est suspendu. L'appel, lui, nous lie au ciel et à toutes les bénédictions spirituelles que Dieu s'est proposées pour nous en Christ dans les lieux célestes. Par conséquent, les bénédictions de l'appel de Dieu ne sont pas selon nos œuvres, ni selon nos pensées ou nos mérites, mais selon son propre dessein et sa propre grâce. Et dans l'appel de Dieu, il nous est révélé le secret de son cœur quelque part. Quel dommage de s'arrêter juste avant. Il le fait en déployant devant nous un vaste panorama de bénédictions, des bénédictions célestes qui sont acquises en Christ avant la fondation du monde. Nous apprenons ainsi que bien avant que nous ayons péché ou contracté une seule dette, bien avant notre premier souffle, Dieu avait un propos établi pour notre bénédiction éternelle. Incroyable. Aucun mal commis par nous, aucune débâcle de l'Église quant à sa responsabilité ne peuvent altérer ce propos de Dieu. De même que aucun bien que nous pourrions faire ne peut nous le procurer non plus d'ailleurs. C'est dans les deux sens. L'appel, la puissance, le salut, la grâce, tout cela, ça dépend uniquement du dessein éternel de Dieu qui est manifesté en Christ Jésus. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut, dit un psaume. Voilà. Mais il nous faut réaliser que nous sommes sauvés de quelque chose afin de pouvoir être appelés à quelque chose. Ça ne suffit pas d'être sauvés. Nous sommes délivrés de la misère dans laquelle le péché nous a plongés afin d'être appelés à une autre position, une position de bénédiction qui est la nôtre en Christ, selon le plan de Dieu. Alors allons-nous nous contenter de la délivrance en laissant de côté la bénédiction. Je trouve tellement triste que parfois nos vies chrétiennes soient limitées parce que nous restons avant l'appel. Imaginez un condamné dont la dette est payée, il sort de prison, il retrouve une certaine liberté. Il lui est proposé d'entrer dans une nouvelle vie, avec un métier, par exemple, bénéfique pour lui et les autres. Une nouvelle famille, des liens, des gens qui vont vraiment l'aimer pour qui il est. Mais lui choisit de rester dans sa vie morne et limitée, une vie difficile, une vie amère. Il n'est plus en prison. Mais qu'est-ce que c'est dommage ! Quel gâchis ! Eh bien, mes amis, c'est souvent notre cheminement. Nous nous arrêtons au salut et nous sommes entre deux chaises quelque part, entre deux mondes, arrachés d'un monde qui mène à la mort, mais sans être vraiment entrés dans celui qui mène à la vie. Quelle insatisfaction ! Saisissons aujourd'hui l'appel de Dieu, quel que soit notre parcours jusqu'ici. C'est aujourd'hui le jour du salut, nous dit l'Évangile. Saisissons cet appel. Dieu nous appelle à la vie. Il nous appelle à être citoyens de son royaume. Il nous appelle à marcher dans ses voies, à être semblables à son Fils. Dieu nous appelle à l'éternité, à la sainteté, à la bénédiction. Alors oui, je le dis souvent, Dieu a beaucoup d'ambition. Beaucoup d'ambition pour nous. Alors pourquoi resterions-nous en retrait alors que ses promesses de grâce sont pour nous ? Ce n'est pas un esprit de crainte ou de timidité que le Seigneur nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Voulons prier le Seigneur. Père éternel, nous te bénissons pour ta parole et pour tout ce qu'elle nous enseigne, pour tout ce qu'elle nous promet, pour tout ce qu'elle nous fait entrevoir. Nous te bénissons, Seigneur, d'avoir voulu nous sauver, mais aussi de nous appeler à de plus grandes bénédictions. Seigneur, ce matin, je te prie pour que aucun d'entre nous ne reste sur la touche. Seigneur, je te prie pour que nous ayons envie de saisir cet appel, d'y répondre et de marcher à ta suite. Parce que quel beau chemin quand on marche avec toi. Nous te prions, Seigneur, de ranimer cette flamme que tu as mis en nous, de nous réveiller, de nous manifester ta présence, ta puissance, ta sainteté. C'est ce que nous voulons chanter maintenant. Et nous te prions au nom de Jésus. Amen.